Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Ça, il dirait lui. Aujourd'hui, c'est où on va là?
Oui, c'est joli.
Lumini, comment ça s'appelle?
Lumini,
77, c'est Yvelines.
Et 77, c'est
Seine-et-Marne.
Aujourd'hui, nous allons voir une expérience d'agroécologie à la ferme de Grand Maison à Lumigny en Seine-et-Marne, à l'invitation de la plateforme pour une autre politique agricole et alimentaire commune. La plateforme pour une autre politique agricole commune est un regroupement d'une trentaine d'organisations paysannes, environnementales, de solidarité internationale, de citoyens et de consommateurs. L'objectif, c'est de transformer cette politique agricole commune en une nouvelle politique agricole et alimentaire commune entre les paysans et la société. Pourquoi ce petit voyage de presse en Seine-et-Marne? Pour les animateurs de la plateforme pour une autre PAC, il s'agit de montrer sur le terrain que la politique agricole commune peut être orientée autrement. De fait, les objectifs de la mutation qu'ils souhaitent sont nombreux. Permettre aux paysans de vivre de leur métier, mettre la future politique agricole et alimentaire commune au service de tous les citoyens, atteindre la souveraineté, l'autonomie et la qualité alimentaire dans l'Union européenne, faire en sorte que les modes de production agricole dans l'Union européenne ne ruinent pas les politiques de développement des agricultures familiales et paysannes dans les pays du Sud, enfin et surtout enclencher une transition agroécologique.
Je ne sais pas si vous voulez être debout ou assis, c'est comme vous voulez.
Je pense qu'assis, on ne va pas payer plus cher.
On peut pas parler. Là, c'est bien de parler un peu plus clairement pour comprendre ce qu'on dit, parce que je pense qu'on ne fait pas du tout les mêmes métiers.
Nous sommes attendus à Lumigny par Rémi Singier, qui produit du blé, du seigle et les transforme en farine. Il cultive aussi des pommes de terre et des asperges. Il travaille également le colza, la caméline et le chanvre, en les pressant à froid à la ferme pour des huiles de très bonne qualité pour la santé. Toutes les productions sont bio et en agroforesterie. Bien que descendant d'une famille d'agriculteurs, Rémi Singier n'a pas toujours voulu s'investir dans la production agricole. Toutefois, c'est la découverte au Brésil de l'agroécologie au sein des communautés locales qui l'incite vraiment à franchir le pas.
C'est vrai que moi, j'étais destiné à être paysagiste. Le dernier métier que je souhaitais faire jusqu'à environ mes 25 ans, c'était agriculteur. Du côté de mon père et de ma mère, tous mes grands-parents étaient agriculteurs. Mais peut-être par esprit de contradiction, j'avais pas envie de faire ce métier-là.
Et vous avez fait des études de paysagiste.
Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai été au Brésil et là-bas, je me suis rendu compte de l'importance des terres cultivées. C'est en 2008 que j'ai fait ce voyage. Donc avec mon épouse actuelle, on est parti après nos études pendant 5 mois. Dans l'objectif de rencontrer une autre culture, en fait, tout simplement. Et on s'était mis un genre de fil rouge, c'était de récolter un maximum d'espèces utiles qui étaient cultivées ou utilisées là-bas. Et donc c'était un peu notre porte d'entrée pour rencontrer les gens dans les communautés rurales. Ça a très bien marché d'un point de vue relationnel, parce que quand on arrive dans un village et qu'on parle de plantes qui sont utiles, bah, tout de suite, ça ouvre plein de portes. Nous, on était hébergés dans des villages. Ils avaient énormément d'impact lié à la déforestation pour l'implantation d'élevages extensifs par des grandes exploitations. Notamment, des personnes avaient vu en 10 ans des cours d'eau disparaître dû à la déforestation, par exemple. Et du coup, ils avaient du mal à conserver leur mode d'agriculture et leur sol à cause de la déforestation, des précipitations qui ne venaient plus ou qui venaient trop fort. On s'est rendu compte de l'importance d'une terre fertile.
Se retrouver confronté aussi directement aux enjeux environnementaux dans les communautés locales au Brésil a été une étape importante. Mais le véritable élément déclencheur a été le départ à la retraite des parents de Rémi Saint-Gier. Soit les enfants reprenaient la ferme, soit les terres partaient à grandir une exploitation intensive mitoyenne. Il se trouve que le fonctionnement actuel de la politique agricole commune, qui consiste à fournir de la matière première à l'agro-industrie, ne fait pas l'affaire de Rémi Saint-Gier. Déjà, les termes « exploitant » ou « exploitation agricole » lui semblent une agression. Cette expression évoque l'idée d'un prélèvement sans retour comme dans une mine. On tarit une source avant d'aller ailleurs. « Je n'aime pas du tout ce terme », dit-il. Donc, reprendre la ferme de ses parents, oui, mais en y appliquant de l'agroforesterie.
Alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant d'agroforesterie qu'il y a d'agroforestiers. C'est-à-dire, moi l'agroforesterie que j'ai fait, c'est mon agroforesterie. C'est pas celle de mon voisin qui va faire la sienne. Le principe de base, c'est d'intégrer des arbres dans les champs. Le bocage normand, c'est l'agroforesterie.
Ah, les haies, par exemple, qu'on voit tout autour du champ.
Tout à fait. Ça, c'est une forme d'agroforesterie. Moi, j'ai fait du intra-parcellaire.
Ah, vous avez fait des bandes, là.
Voilà, j'ai fait des bandes d'arbres. Tous les 27 mètres, j'ai intégré des bandes d'arbres. Ces bandes d'arbres, elles sont exposées nord-sud pour ne pas avoir de décalage dans la maturation des plantes que je cultive entre ces bandes d'arbres.
À partir de l'ensoleillement.
Voilà, pour l'ensoleillement. Il y a d'autres bandes que j'ai implantées perpendiculairement à la pente pour limiter l'érosion des sols.
Mais je veux voir si moi-même j'ai bien compris. C'est-à-dire, j'arrive, je défriche complètement ma parcelle, je sème là-dessus, c'est tout nu, pour moi c'est tout beau, mais la terre a besoin de ce système racinaire pour faire vivre des micro-organismes qui vont nourrir la terre d'abord. Et c'est ce que moi j'ai enlevé.
Alors, si on enlève tout ce qui est sur la terre, on va enlever un support énorme qui sert de colle à notre sol.
Ah oui, il y a la texture du sol même.
Voilà, c'est ça. La texture du sol, elle est tenue par tous les éléments du sol. Alors, on peut avoir l'argile, le calcaire, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les colles organiques qui sont contenues dans les micro-organismes, dans la matière organique qui va se décomposer, les feuilles, les racines. Tout ça, ça permet de faire un amalgame qui va rester cohérent. Et si on enlève le vivant de ce sol, eh ben, toute cette cohésion elle va se briser et le sol va être emmené dès la première perturbation. Le sol qui aura mis des centaines d'années à se former, si on le perturbe de trop, il va se détruire.
Sur une ferme de 125 hectares au total, Rémi Saint-Gier cultive 38 hectares en bio et agroforesterie. Le fermier a planté 1700 arbres en bande qui quadrillent ses champs, accompagnés de 9000 arbustes au milieu de ses parcelles de céréales et autres plantes. Chaque parcelle a ses caractéristiques. Par exemple, là où la nappe phréatique est importante, on met une essence qui peut vivre les pieds dans l'eau. Là où il y a une forte pente, on met une essence qui peut résister.
Alors oui, moi ce milieu, je le connaissais moins que mes anciens. Donc j'ai demandé à mon grand-père, à mon père, aux gens qui connaissent bien la campagne, de m'expliquer. Est-ce que tu te souviens s'il y avait de l'eau à tel endroit, si c'était sec plus à un endroit qu'à un autre? On a fait appel à des bénévoles pour venir nous aider à planter. Sur deux hivers, on a organisé 12 week-ends de plantation et il y a environ 150 personnes qui sont venues en tout. Il y en a qui sont venues plusieurs fois, il y en a qui sont venues qu'une fois, d'autres un seul après-midi, d'autres un week-end complet.
ce n'est pas la seule innovation, puisque vous nous avez expliqué qu'il y a des rotations de cultures.
Oui, alors moi je fais de l'agriculture biologique, ce qui veut dire que je n'utilise pas d'engrais chimiques ni de produits pesticides.
Vous nous avez dit même que la chimie n'a rien à faire dans nos assiettes.
Et non, bah oui, pour moi, c'est... Enfin, pour en faire des médicaments, pourquoi pas, si ça peut sauver des vies, mais bon, si c'est cultiver les plantes, on est capable de le faire sans empoisonner son environnement, c'est ma vision, après, c'est pas celle de tout le monde. Mais en tout cas, moi, je cultive en agriculture biologique, donc sans engrais et sans pesticides, il faut que j'utilise d'autres techniques, donc je fais la rotation des cultures.
Ah, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais du blé au même endroit pendant 10 ans, c'est la même profondeur et les mêmes minéraux, les mêmes matériaux que j'épuise. Alors que si je fais du blé, il épuise à une profondeur, l'année suivante, je mets une autre culture, ils se nourrissent pas de la même façon, quoi.
C'est ça, en fait, ça marche aussi pour les ravageurs. S'il y a un insecte qui est adapté pour attaquer le colza, cet insecte, il va pondre dans le sol, par exemple, ou dans les débris végétaux. Si l'année suivante, vous remettez du colza, il va se retrouver dans un espace béni pour lui, parce qu'il y a sa nourriture au pied de sa maison. Alors que si l'année suivante, vous mettez une autre plante d'une autre famille, par exemple, le colza, c'est une brassicacée, c'est la famille du chou. Il faut surtout pas mettre du chou après du colza, par exemple. Le colza, il faut mettre du blé, qui est une céréale qui est complètement différente.
Donc quand ses œufs vont éclore, il n'est pas dans son milieu.
Voilà, quand ses œufs vont éclore, et ben, soit c'est un insecte volant, il va devoir faire un énorme effort pour trouver un autre champ de colza, soit il va y avoir au pire même d'autres ravageurs de cet insecte-là qui seront plus adaptés à vivre dans le blé, et donc il sera pas favorisé, quoi.
D'un autre côté, il faut penser aussi aux pollinisateurs, qui eux ne sont pas les ennemis des cultures.
Non, alors les pollinisateurs, bien souvent c'est des insectes volants, qu'ils sont capables de faire plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres autour d'eux pour trouver leur nourriture. Donc dans la rotation de mes cultures, j'ai énormément de plantes intéressantes pour leur pollen. J'ai mis 36 essences d'arbustes, 19 sortes d'arbres, tout ça en réfléchissant justement aux époques de floraison, pour avoir un maximum de plages de floraison durant l'année. Les insectes, quand ils sortent au printemps, une journée comme celle-ci en février, qui est assez douce, et ben il va y avoir des insectes qui vont sortir, et ben dans ma parcelle, ils vont trouver du pollen de noisetier, par exemple.
Alors, Rémi, ce que nous a amené chez vous, c'est la PAC.
Alors, la PAC. Eh bien, tous les ans, la PAC, moi, je déclare ce que je fais. Je déclare ce que je plante, ce que je sème, si je fais de l'agriculture biologique, de l'agroforesterie, des choses comme ça, je déclare et quelques mois après, je reçois des sous, une aide. Donc c'est une prime, et cette prime, elle sert en fait à permettre aux agriculteurs français et européens de vendre leur production moins chère pour être compétitif sur le prix mondial. C'est à mon avis, c'est le but de la PAC, c'est ça, même si c'est peut-être pas ce qui est dit, mais en gros, c'est pour ça. C'est pour faire rendre la nourriture moins chère qui est produite par les producteurs français.
Mais il y a aussi des contraintes, parce que la PAC émet des directives.
C'est assez compliqué comme système.
Ah, c'est la complexité.
Oh oui, il y a différents piliers. Alors pourquoi des piliers, je ne sais pas. Ils appellent ça comme ça. Il y en a un notamment sur l'environnement. Il faut remplir des critères. Donc cocher des cases, et quand on est bon, ben on touche une aide, donc un peu d'argent, et si on n'est pas bon, on touche pas d'argent.
Donc ce que vous vous demandez, c'est que ce soit simplifié, que ce soit compréhensible, et que ce soit accessible.
En fait, moi quand je déclare, mes relations avec la PAC, c'est simplement déclaration et réception de l'argent. Sauf que entre les deux, je ne sais pas pourquoi on m'a attribué tant d'euros. Pour quelle raison? Si ça correspond au fait que je cultive en respectant l'environnement, si c'est parce que j'ai tant d'hectares, si c'est parce que... Alors eux, c'est, ils vont me dire, mais si, c'est parce que telle ou telle chose, mais n'empêche, quand on reçoit le virement sur le compte, on n'en sait rien du tout, et sur le logiciel qu'on doit tenir à jour, c'est incompréhensible, quoi. Faut être un professionnel, avoir fait l'ENA, je pense, pour comprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est sûrement des énarques qui, qui travaillent là-dessus.
Alors aujourd'hui, il est question de renégociation de la PAC. Il y a même une plateforme pour une nouvelle PAC qui parle aujourd'hui de politique agricole et alimentaire commune.
L'agriculture, c'est l'alimentation. Un agriculteur, c'est un producteur de nourriture. Et ça, si on l'oublie, si on sépare la nourriture de l'agriculture, on n'a rien compris. On rajoute de la complexité dans l'engrenage au lieu de simplifier.
Je veux voir si j'ai compris ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que vous, agriculteur, votre rôle, ce n'est pas de produire de la matière première, de fournir ça à un industriel qui va faire de l'agroalimentaire. Votre rôle, c'est de produire une alimentation de qualité, directement.
C'est ça. Moi, d'ailleurs, dans ma ferme, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, en transformant toute ma récolte de colza et de chanvre et de cameline en huile végétale, que je vends directement dans les magasins qui m'entourent ou sur internet dans la région parisienne. Et au niveau des céréales, c'est pareil, je fais ça avec les farines. Je fais la mouture de mes graines pour en faire de la farine que je vends aux alentours de chez moi. Donc j'essaye un maximum d'amener mon produit jusqu'au bout, quoi.
Jusqu'au consommateur.
C'est ça.
Mais vous n'êtes pas seul dans cette démarche, parce que ce que nous venons de manger, on nous a donné la liste des agriculteurs qui sont intervenus dans la production de ce que nous avons mangé.
En plus, je les connais tous, donc ça me fait plaisir de goûter les produits de mes collègues. Ben, on commence à être un certain nombre, à être dans cette démarche-là, mais pas assez à mon goût, parce que...
Vous voulez que ça aille plus vite.
Que le consommateur puisse se dire, ah ben, alors j'ai le choix d'aller en supermarché ou mes gâteaux, ma farine, le lait, les œufs, je peux les trouver en direct du producteur à tel ou tel endroit. Et...
Ah, vous avez dit même, il faut qu'on lègue une terre saine aux générations qui viennent.
Bah oui, c'est mieux. C'est mieux pour que l'humanité puisse durer un peu quand même.
Je vous remercie.
Merci.
Le bus est là. Bon, Rémi.
Au revoir. Allez,
au revoir.
Merci.
Salut. Nous étions aujourd'hui à la ferme de Grand Maison à Lumilly en Seine-et-Marne à l'invitation de la plateforme pour une autre politique agricole et alimentaire commune. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Sophie Janet, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider. Et à la semaine prochaine.